Février 2023. Amber Möllenhäuser vient me rendre visite en Suisse. Nous sommes tous les deux artistes sonores, elle basée à Bruxelles et moi à Fribourg. Ensemble, on veut créer une pièce électroacoustique sous le pont de Pérols qu'on présentera au Belluard Bollwerk, un festival de création contemporaine qui a lieu chaque année à Fribourg. On est fascinés par cette architecture en béton et par son acoustique. Un viaduc centenaire de 500 mètres de long et 70 de haut. La ville en haut, perchée au-dessus des falaises, et en bas, la verdure et la sarine. On fait des repérages, le dossier est écrit et le projet a déjà un nom. 12 sonances. Une performance live qui fera résonner les 12 échos distincts de cette immense arche. Il ne manque plus que les autorisations.
Gérald, je sais pas si tu as vu ta mail, mais on a eu des mauvaises nouvelles du Belluard. Le service de la nature ou du milieu a pas accepté le projet. Du coup, il proposait de faire un Skype cet après-midi. Du coup, si jamais tu as un créneau, peut-être qu'on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, quoi. Peut-être qu'il y a des autres options, peut-être eux, ils ont des propositions. Des gros bisous. Ciao.
Hallo. Ja, ich hab just gehört. Fuck, 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 fuck. Jammer. Ja. Ja, wir müssen nu sehen, was wir können tun. Muss even kijken. Voilà, je t'embrasse fort. Et puis, bah, on va trouver une solution, on va faire quelque chose. Ce sera moins incroyablement magnifique que là-dessous, mais ce sera. Bisous.
Selon le service de la forêt et de la nature de l'État de Fribourg, qui gère la réserve naturelle du lac de Pérols, nos haut-parleurs sont considérés comme une nuisance. Une installation artistique serait-elle plus gênante pour la faune des alentours que les bus, camions et voitures qui circulent jour et nuit? D'abord un peu perplexe, nous voulons comprendre, accompagnés de deux ornithologues et d'une bruiteuse.
Là, on domine la vallée de la Sarine. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares bouts de la Sarine où elle a son débit normal à peu près. C'est-à-dire qu'elle n'est pas captée. Donc elle est très large, elle est très dynamique et ça forme ce qu'on appelle une zone alluviale. Puis tu la repères tout de suite. Si on regarde la forêt, on voit un cordon d'arbres qui sont presque grisâtres. Ça, c'est les saules blancs. Et eux, ils poussent les pieds dans l'eau. Donc, en fait, ils dessinent le cours de la Sarine, même là où on ne la voit pas, quoi.
Bonjour.
Pour profiter de ce bout, d'ailleurs, c'est une réserve naturelle, là, comme tu le sais.
On n'a pas trop le droit de...
Ben, voilà, disons, c'est toujours... En fait, ce qui est paradoxal, c'est que La nature en Suisse est très dénaturée, on peut dire. Puis, quand on se promène, on déplore ça. Puis finalement, nos yeux se portent vers les endroits qui sont préservés. Puis pourquoi ils sont préservés? Parce qu'on a réussi à faire quelques réserves naturelles. Et la pression humaine, maintenant, se dirige vers ces endroits-là. Parce qu'en fait, on se dit, ben, c'est là que c'est joli, c'est là que j'ai envie d'aller.
Du coup, là, on est sous le pont de Pérols, au bord de la Sarine, sur un sentier jaune pédestre. Et puis, en fait, on est dans une forêt périurbaine. Donc là, par exemple, on entend la route, mais on entend aussi les chants d'oiseaux. Donc là, on est typiquement dans cette ceinture extérieure de la ville.
Bon, on est dans une hêtraie. Hein. Tu vois, là, ça, c'est un beau hêtre. C'est vraiment typiquement la forêt, disons, du bas de la pente ou du haut de la vallée de la Sarine. C'est la forêt la plus courante dans le canton de Fribourg, sur le plateau. On appelle la forêt climatique. Donc tu as le hêtre qui est là, qui domine. Là-bas, il y a un frêne aussi. On est tout près du pont. La végétation elle est différente parce que quand ils ont rénové le pont, il y a une quinzaine d'années, ils ont défriché autour pour pouvoir mettre les échafaudages, accéder, tout ça. Après, ils ont remis en état, mais bien sûr, la végétation est plus jeune. Donc ça fait un peu de diversité, on dira.
Et ça change aussi les espèces qu'on peut y trouver.
Il peut y avoir d'autres oiseaux, surtout au début. Ouais. Parce que finalement, c'est comme s'il y avait eu un grand coup de vent ou un incendie qui libère de la surface. Là, c'est magnifique, tu vois, il y a ces arbres qui sont tombés dans l'eau. Alors ça, c'est des perchoirs de rêve pour le martin pêcheur. Je trouve qu'on mériterait d'en voir un. Et puis, en dessous, ben, c'est aussi des abris de rêve pour les poissons, ce qui égalise un peu les chances.
Là, donc déjà autour de nous, qu'est-ce qu'on a comme manifestation sonore? On a la route, on disait, les oiseaux. Plus spécifiquement, ouais, qu'est-ce qu'on peut entendre?
Alors avant, il y avait un pouillot véloce. Donc ça, c'est des sons, des strophes courtes assez faciles à reconnaître. Il fait un peu ti 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 ti. Et puis là, en haut, on entend un pinson des arbres. Ça, c'est l'oiseau le plus commun de Suisse. Donc quand on fait attention, en fait, on l'entend partout. C'est le premier chant que j'ai réussi à identifier. 100% de certitude. On a des joggers aussi. Alors, on sait que le bruit lié aux activités humaines a un impact sur les activités de chant des oiseaux. Donc, par exemple, la station ornithologique a fait une étude sur le bruant des roseaux il y a quelques années, où on a vu que du coup, le bruant des roseaux, comme son nom l'indique, niche plutôt dans les zones humides roselières. Et il y a souvent des routes à proximité parce que c'est souvent des espaces de détente où les gens passent aussi. Et en fait, cette étude, elle a montré que pendant la semaine, quand il y avait du trafic, les bruants qui avaient leur territoire à proximité des routes, ils chantaient moins longtemps et plus aigus. Donc en fait, c'est pour mieux se faire entendre, et ils le faisaient moins longtemps parce qu'ils n'arrivaient pas à couvrir le bruit ambiant. Et par contre, le week-end, du coup, ils reprenaient une tonalité qui était plus grave et ils avaient une activité de chant qui était plus fréquente. Donc on voit que la manière de chanter diffère suivant le bruit qu'il y a. Et pour ces bruants aussi, on a vu que les bruants qui avaient leur territoire à proximité de la route, donc là où c'était bruyant, ils avaient un succès de reproduction qui était moins bon que ceux où c'était plus calme. Donc avec cette espèce, on voit que le bruit, ça a aussi une influence sur leur capacité à trouver une femelle et à se reproduire. C'est vrai qu'il y a des sons où on sait avec certitude que ça, ça dérange les oiseaux. C'est tous les bruits qui ressemblent à des détonations. Donc ça a forcément lié à la chasse. Donc historiquement, les oiseaux sont chassés depuis très longtemps. Donc tout ce qui est bruit, type feu d'artifice par exemple, ça c'est à éviter absolument parce que ça fait peur aux oiseaux en fait. Et puis typiquement les feux d'artifice de Nouvel An, donc qui ont lieu en hiver, donc souvent autour des lacs, parce qu'il y a plein de villes qui sont au bord des lacs. Ça, c'est vraiment le mal absolu pour les dérangements, parce que c'est la saison où il y a plein de canards qui viennent hiverner sur les lacs. Et puis on leur fait des feux d'artifice qui ressemblent à des détonations, donc ça les fait fuir. Et ils vont utiliser une énergie pour fuir, alors qu'on est déjà à un point de l'année où l'énergie est précieuse en hiver. Donc ça, par exemple, on sait qu'il faudrait éviter ce type de bruit. Après, pour les bruits de la ville en elle-même, les oiseaux qui vivent en ville, ils ont choisi de venir. Les oiseaux, c'est quand même des animaux qui sont malins. S'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ont toujours la possibilité de s'en aller, de partir. Les espèces qu'on voit moins, bah, c'est justement parce que ça ne leur convient pas d'être près des infrastructures, d'être près des routes, etc. Mais les oiseaux qui sont déjà dans des environnements bruyants, ils sont parfaitement adaptés à la situation et donc c'est eux qui savent le mieux ce qui va le mieux pour eux. Après, encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas apporter des dérangements, des nuisances sonores, des infrastructures dans des endroits où c'est calme, parce que les espèces qui se trouvent là, elles ne sont pas encore adaptées et donc elles vont partir. Et ça, ça va être assez dommageable.
Les avions aussi. Mais ça, c'est incontournable, je crois que... Sur le territoire suisse, on n'a aucun endroit qui est silencieux.
Qui est libre d'avion ? Non, je crois pas. Mais c'est assez drôle parce qu'il y a des espèces qui aiment bien la proximité des avions. Mais pas parce qu'ils aiment le bruit des avions, mais parce qu'en fait, la manière dont est conçu l'environnement autour d'une base d'aviation leur convient. Donc par exemple, avec une végétation rase, où ils peuvent trouver des insectes, etc. Et du coup, il y a des espèces qu'on voit plus souvent aux abords immédiats. Et typiquement, les avions... Je crois pas que ça... Enfin, c'est pas un bruit qui va déranger. Enfin, là, on entend... Il y a l'avion qui passe, puis on entend le Puyo Veloz qui chante par-dessus, sans souci. Là, on l'entend bien, en plus. Là on a le merle, le pouillot, puis l'avion par-dessus. Puis là où il y a des hirondelles.
Son de la nature, son des humains. Son animal, minéral, artificiel. Mais qu'est-ce qui peut bien être encore vraiment 100% naturel à l'heure de l'Anthropocène ? Pour prendre un peu de recul, nous quittons le pont de Pérols pour rencontrer Caroline Ledoux chez elle. Elle est bruiteuse professionnelle, experte du trompe-l'œil sonore. À l'aide de ses valises pleines d'objets incongrus, elle produit pour le cinéma, la radio, la télévision ou le théâtre des sons plus vrais que nature, parfois même pour des documentaires animaliers.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Là, il y a des petits moineaux, mais il y a aussi une tondeuse derrière. Donc en fait, à chaque fois, tu es corrompu par un bruit. Là, tu ne peux pas entendre véritablement la nature. C'est pour ça aussi qu'on te demande de refaire des choses dans un endroit, on va dire, aseptisé au niveau d'un point de vue sonore, ou pour ne pas avoir justement la tondeuse au loin. Alors comment expliquer ? Il y a des choses en fait qui sont fausses, si on y réfléchit bien, c'est totalement faux, mais en revanche, elles sonnent beaucoup plus vraies que le vrai entendu dans la nature. Comment se l'expliquer ? Je ne sais pas. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des codes, des choses comme ça qui sont établies. On dit, ben, refais. Et moi, je me prête volontiers au jeu, même si je sais très bien que ce ne sera pas... je ne sais pas, il y a des geais ou les canards. J'ai déjà essayé avec mes apôts, là, d'attirer des animaux. Ça ne marche pas. Donc, ou les passereaux, les petits passereaux, j'ai un truc pour faire ce bruit-là. Pour autant, il n'y en a jamais qui viennent me voir quand je fais ça. Donc. Après, il y a ça, ce genre de petit... Je suis allée au bord du lac avec ça. Fiasco total.
Donc, est-ce que tu aurais aimé pouvoir vraiment dialoguer avec
eux? Oui, oui, oui. Alors, ça m'arrive de dialoguer pardon, avec des hiboux. Mm-hmm. Alors ça, c'est grandiose parce qu'ils sont... Alors ça, je fais avec les mains, souvent. Là, j'en ai un comme ça, mais... Là, j'y arrive pas. Il y en a en face, juste en face, il y a de grands arbres et le soir, j'ai des échanges. Ça m'arrive
et
d'avoir...
Qu'est-ce que tu ressens dans ces échanges? Comment est-ce que tu sens que c'est un vrai échange?
Je sens que c'est un vrai échange parce que si je le fais deux fois, il va le faire deux fois. Et puis, surtout, alors là, nec plus ultra, c'est quand je vois l'animal arriver vers pas très loin de moi, quoi. Et puis, j'essaie de me mettre à l'écoute et j'essaie là vraiment de reproduire ce qu'il fait. Et c'est assez jubilatoire.
Ouais.
Mais ça m'amuse, ce genre d'échange, oui, m'amuse beaucoup. Mais c'est un rêve d'humain, ça.
Je crois qu'il y a une idée un peu peut-être romantique à laquelle on a envie de croire, comme nous,
oui.
On fait la musique de l'art sonore, que eux, il y aurait une espèce de plaisir aussi à ça. Comme biologiste, on observe quand même toujours ça d'une manière très utilitariste.
Oui, tout à fait, ouais, même presque cynique.
Mais est-ce que c'est un biais?
J'espère, parce que j'espère qu'ils ont du plaisir. Enfin, quand des fois, tu es là, tu dis, mais ils doivent être heureux. J'espère qu'ils sont heureux comme ça, à chanter, nous on le serait. Puis tu peux te dire, ouais, en fait, il est juste en train de dire, eh, connard, si t'approches, je te pète la gueule, et puis eh, viens poupoule, et puis, enfin, je vais pas continuer à au micro, mais tu vois, ça peut être des choses très crudes dans notre langage, mais j'espère quand même que c'est toi qui as raison. Mais voilà, en fait, ils ont l'habitude. C'est ce que je disais avant. Ils savent que là, il y a un truc qui fait du bruit là-haut. Voilà, c'est comme ça. Ça pourrait être une rivière. Tu as les animaux qui vivent au bord d'un torrent. Ils ont toujours entendu le torrent. Donc là, pour eux, c'est comme une sorte de flux continu d'un bruit qui est toujours le même. Et puis là, tu arriverais avec un bruit qui est différent à un endroit où d'habitude c'est calme. Et c'est ça la perturbation. C'est nouveau, tu sors du chemin, tu vois. Les bestioles, ils repèrent où sont les chemins pédestres. Après, toi, tu arrives, tu es sur le chemin, tu passes, ils te voient, ils ne bronchent pas. Tu t'arrêtes, tu commences à regarder, tu vois qu'ils se mettent en alerte. Tu sors du chemin, ils se taillent. T'as 50 personnes qui passent sur le chemin, ils ont checké, ok, là on ne sait pas quel c'est ce phénomène, il y a toujours des gulus qui passent, c'est pas dangereux. Mais oui, il y en a un qui arrive par ailleurs, là je dis, tiens, ça c'est pas normal, ça j'ai jamais eu, ben c'est pas ça, donc il se casse. Puis le bruit, je pense un peu, j'ai l'impression qu'il y a des analogies, mais là je ne veux quand même pas trop m'avancer, mais disons, tu vois par exemple les avions militaires, nous, pour nous c'est horreur. Et... un des meilleurs spots pour les oiseaux et la faune, c'est l'aérodrome militaire de Payerne. Alors je ne pense pas qu'ils apprécient le développement. Mais ils savent que ces avions sont toujours au même endroit. Ben, ils observent, quoi, j'imagine. Enfin, je ne suis pas dans leur tête non plus. Mais tu vois que ça ne les perturbe pas autant que ce à quoi nous on s'attendrait. En même temps, on doit aussi dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Thank you.
c'est assez intéressant parce que forcément, à notre niveau, on projette tout avec nos yeux d'humains. Et en fait, le bruit, ça dérange surtout nous. C'est que des bruits qui nous dérangent, on se dit que ça va forcément déranger les oiseaux parce qu'ils sont, ils sont plus petits, on les perçoit comme plus vulnérables. Et du coup, on se dit que des bruits très dérangeants, comme des génératrices de l'armée sur des montagnes, par exemple, ça va forcément être un problème. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas forcément le cas et qu'il y a des activités que nous, on perçoit comme pas dérangeantes, typiquement le stand-up paddle. Donc ça, c'est une activité où on se dit « Ah, bah, on n'avance pas vite, on ne fait pas de bruit, ça ne devrait pas être un problème. » Et ça, par exemple, c'est un problème. Parce que les oiseaux, ils perçoivent ça comme une menace, alors que du bruit ambiant d'une route à côté de leur territoire dans la forêt, peut-être que ça va moins être un problème.
Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est voir si, entendre si il commençait à y avoir des chauves-souris. Donc là, je sors mon écomiteur. Ça, c'est, donc, c'est un micro qui capte les ultrasons. Les chauves-souris, elles émettent des ultrasons, donc on n'entend pas. Et donc ce petit micro, il capte des ultrasons. Après, il y a un software qui les transforme en des sons qui sont audibles. Bon. Chasse, hein. On les voit pas, mais on entend ça chasse. Mais, sauf erreur, si on va comme ça, on arrive juste au bord de l'eau.
Tout à fait. Oui.
Ce sera l'idéal pour le. Je crois qu'on peut passer comme ça, j'espère qu'il n'y a pas d'ortie. Donc là, je pense qu'on est avec, on est en présence de murin d'aubenton. C'est une très belle chauve-souris avec le ventre blanc, des poils assez longs. Ah, regarde ça, là, ça sature, hein, ils sont tout près, mais on ne les voit pas.
C'est fou, hein?
Alors voilà, là ça caquette, on peut dire. Ça veut dire il y a au moins deux ou trois chauves-souris en chasse, c'est ce qu'on espère avoir. Donc tu dois t'imaginer que c'est comme si tu avais une lampe frontale, que tu cours dans la forêt toute à vitesse que tu peux, et puis elle clignote. Et donc tu as l'information toutes les 10 millisecondes comme ça, puis entre deux, bah. C'est assez génial, quoi, leur traitement.
Je pense qu'on ne peut pas vivre sans bruit parce que, en fait, ça questionne aussi notre rapport à la vie et le silence. De fait, même si le vrai silence n'existe pas, ça nous ramène inéluctablement vers la fin. Je sais pas, on a peur. C'est angoissant le silence. Et voilà, donc faisons du bruit.
Sonance.
Avec Chloé Pang de la Station ornithologique suisse, Benoît Magnin, biologiste, ornithologue et chiroptérologue, et Caroline Ledoux-Leforestier, bruiteuse. Merci à Lucas Menem pour l'enregistrement de la performance, Bernard Zitz pour son soutien technique, Émilie Binder et Carmen Sage pour leurs retours éclairés. Une coproduction Belluard Bolwerk et Chenille Brol, avec le soutien du labo de la RTS, du service de la culture de l'État de Fribourg et de Pro Helvetia. Une création de